À mon tour de vous dire bonjour. Nous sommes en été, période de longs voyages, de marches interminables sous un soleil implacable. Imaginez que vous êtes dans les Vosges, chaussures de marche bien lacées aux pieds, bouteille d'eau presque vide dans le sac, pommes déjà mangées, jambes déjà plus là. Et puis petit à petit, vous approchez, enfin vous pensez que vous approchez de votre voiture, garée à un endroit que vous espérez atteindre, enfin, après des heures et des heures de marche. Et puis votre voiture, tout à coup, vous apparaît de loin. Ce vieux tas de ferraille que vous pensiez vendre déjà depuis des années vous apparaît comme le ciel sur la terre parce que dedans, il y a une autre bouteille d'eau. Et alors, vous approchez de la voiture et tout à coup, vous vous dites « Pourvu que je n'ai pas perdu les clés de la voiture en route, au cours de la marche. » Vous vérifiez fébrile dans votre poche. Elle n'est pas dans votre poche. Ah oui, elle était dans la poche du sac. Ouf. Vous arrivez à la voiture. Vous ouvrez la porte. Vous vous asseyez sur le siège. Vous buvez de l'eau qui était encore à peu près fraîche. Vous délacez vos chaussures. Vos pieds, enfin, respirent. Vous moins, vu ce qui se dégage des pieds. Joie de l'arrivée. Joie de l'arrivée en fin de journée, après une étape longue. Je me souviens, pour celles et ceux qui ont participé à la marche sur le chemin de Compostelle, de la joie d'arriver à l'auberge des pèlerins, sur le chemin de Saint-Jacques. Joie d'arriver. Même si on a roulé en voiture pendant un long voyage, on arrive, certes moins fourbu qu'à pied, mais on arrive quand même avec joie sur le lieu de destination. Aujourd'hui, je vous propose un psaume qui raconte, qui célèbre l'arrivée à Jérusalem. C'est celui qu'Isabelle a lu tout à l'heure. Merci beaucoup Isabelle. Le psaume 122. C'est ce qu'on appelle un psaume des degrés, des montées. C'est le psaume des voyageurs. Sans doute, on peut imaginer, les biblistes essayent de nous les faire vivre de cette manière, des pèlerins qui marchaient pour aller à Jérusalem. Vous savez que Jérusalem, là on est plus ou moins au temps de la royauté, donc il y avait le temple, et le temple était très central dans la vie spirituelle, religieuse des Israélites, et donc ils y allaient. Une fois, deux fois, trois fois par an peut-être. C'est ce qui explique par exemple qu'au temps de la Pentecôte, il y avait tant de monde. Pierre a fait son grand discours, il y avait plein de monde à Jérusalem. Mais c'était une des occasions où les gens venaient à Jérusalem pour célébrer une fête particulière de l'année. On peut imaginer que ce psaume est là pour... C'est un chant de marche, quoi, un chant d'arrivée. Mais on ne marche pas juste pour arriver à une auberge dans les Vosges, on marche pour arriver à Jérusalem. En tant qu'Israélite, c'est un pèlerinage, c'est un lieu où on arrive avec joie. Chant des montées, alors pourquoi des montées? Peut-être parce que Jérusalem est en haut d'une colline et que quand on monte, personnellement quand je monte, j'ai du mal à chanter, je souffle, je maîtrise mon souffle. Peut-être qu'il faisait ça avant de monter, je ne sais pas. Alors c'est un psaume, nous dit la Bible, chant des montées de David. Compliqué parce qu'il est question de la maison du Seigneur. Or, David n'a pas construit le temple, c'est son successeur qui l'a construit. D'une part. D'autre part, l'expression de David, ce n'est pas tout à fait de David au sens écrit par David. On pourrait le traduire « psaume à David ». Peut-être qu'il s'agit d'un recueil portant le nom de David, du roi poète, qui était poète et qui en a écrit indubitablement. Mais peut-être qu'aussi, il y en a d'autres qui ont été ajoutés à ce recueil et que ce psaume 122 en fait partie. La question reste ouverte, puis ce n'est pas tout à fait central dans mon propos. Ce psaume dit l'attachement des pèlerins à leur capitale. Je vais le relire, Isabelle, même si tu l'as très bien lu tout à l'heure. « Je me réjouis quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville qui forme un ensemble bien uni. C'est là que montent les tribus du Seigneur, comme témoignage pour Israël, afin de célébrer le nom du Seigneur. Car là sont installés les trônes pour le jugement, les trônes pour la maison de David. » Là, on peut imaginer, ils ont leur bouteille d'eau à la main, ils se sont assis en face de Jérusalem et ils disent « Waouh, mais c'est beau quand même !» Et là, c'est ce psaume qui exprime ça. Et puis, quand ils arrivent, en entrant dans Jérusalem, ils disent « Demandez la paix de Jérusalem, qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment, que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai que la paix soit en toi. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je recherche ton bonheur. » Jérusalem, pour un juif de l'époque, c'était la ville du roi. La capitale politique, c'était la ville du temple ou du futur temple, enfin la ville où on adore Dieu. C'était le centre de la capitale de la vie religieuse. Ce n'était pas comme au temps d'aujourd'hui où il y a des synagogues un peu partout et où il n'y a plus le temple, même si Jérusalem reste un lieu central pour le judaïsme, bien évidemment. Qu'est-ce que les pèlerins expriment ? Je l'ai dit quelques... Je vais donner quelques éléments. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'ils vont à Jérusalem avec joie. Même s'ils transpirent un bon coup, ils y vont avec joie. Ils disent, ils admirent Jérusalem. Qu'est-ce qu'elle est belle, notre ville ! Jérusalem, tu es bâti, verset 3, comme une ville qui forme un ensemble bien uni. Ils voient Jérusalem comme un lieu de louange à Dieu. C'est là que montent les tribus comme témoignage pour célébrer le nom du Seigneur, verset 4. Ils disent, bah tiens, on va à Jérusalem, et ce qu'on va faire, on va rendre un culte à Dieu, ça va être bien. Ils discernent l'importance de Jérusalem dans le plan divin. Verset 5, là sont installés les trônes pour le jugement, les trônes pour la maison de David. Ils discernent aussi la paix, ou ils veulent la paix pour Jérusalem. Toute la fin du psaume le dit, hein, demander la paix de Jérusalem. Trouvez pas dans ce psaume, il y a quelque chose de l'ordre du cri, de l'amour tout simple. Je l'ai mal lu d'ailleurs, Isabelle a bien mieux lu que moi. Moi je l'ai lu sans cœur, sans tripes, sans cri, sans joie, sans chant. C'est un chant, un psaume qui... On imagine ces voyageurs qui l'entonnent, qui chantent faux, qui chantent juste, qui le chantent ensemble, qui s'entraînent mutuellement. Il y a de la joie dans ce psaume, il y a de l'amour dans ce psaume. Qu'on ne vienne pas nous dire après que les Israélites, ce n'est qu'une religion de respect d'un rite. Il y a beaucoup de joie dans la foi juive. Et ici, on en trouve un morceau. Et puis, il y a plusieurs personnes. Il y a des gens qui disent « Je me réjouis quand on me dit ». Alors, le « on », c'est qui ? Ben, c'est peut-être les compagnons de marche. « Allons à la maison de l'Éternel ».« Allons », c'est un pluriel. Et puis, verset 6, « Demandez la paix de Jérusalem ». On pourrait presque imaginer qu'ils se répondent l'un à l'autre. Ben, prenons-en de la graine, nous les chrétiens et les chrétiennes. Prenons de la graine de ce psaume. Alors, il ne s'agit pas de faire un pèlerinage à Jérusalem. Grand bien vous fasse si vous allez visiter Jérusalem. Il y a des tas de choses à voir pour nous chrétiens dans cette ville. Mais ce n'est pas notre capitale religieuse, comme pour les Juifs. Dans le Nouveau Testament, Jérusalem est avant tout le théâtre de la venue de Jésus, de sa mort, de sa résurrection. Mais ce n'est pas un lieu dans lequel il faut faire un pèlerinage. Ce qui est espéré ensuite dans le Nouveau Testament, c'est la cité céleste, la maison du Père, celle que nous atteindrons à la fin de notre voyage terrestre. Ce sont les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et pas une ville terrestre au sens géographique, et en tout cas pas forcément Jérusalem. Dans la théologie chrétienne, le temple, c'est là où le peuple de Dieu se tient. Paul a bien exprimé cela aux Corinthiens, il a dit « Vous êtes le temple de Dieu ». En s'adressant à l'église de Corinthe, il voulait signifier qu'on ne fait pas n'importe quoi dans l'assemblée des chrétiens. Parce que nous, assemblée des chrétiens et des chrétiennes, nous sommes là où Dieu manifeste sa présence. Nous sommes le temple de Dieu. Donc, ce psaume 122, vous comprenez qu'on ne peut pas faire une application littérale de ce psaume. Il faut en tirer la substantifique moelle, en tirer la vibration et l'intégrer dans notre foi. Retenons les éléments humains de ce psaume, la joie, la communauté. Retenons les éléments sociaux, le vécu. Tenez, par exemple, le verset 1. « Je me réjouis quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur. » Merci. « Je me réjouis quand on me dit « Tu viens au culte ce matin ?» Peut-être qu'il y a quelqu'un qui me le dit, ou peut-être que je n'ai pas envie d'y aller. Bon, les Israélites, ceux qui faisaient le pèlerinage, y allaient 3 fois par an. Admettons, les 3 solennités les plus importantes de l'année religieuse juive, c'était 3 fois par an. Non, je sais, ne venez pas que 3 fois par an à l'église, non, ça ne va pas. Se réunir le dimanche, c'est une habitude que nous avons, c'est peut-être une routine, et la joie et la routine ne font pas bon ménage. C'est vrai, dimanche après dimanche, on va à l'église, toujours la même chose, toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes casse-pieds à qui il faut dire bonjour, ça, la marre, la routine, pas de joie là-dedans. Prenez une autre habitude. D'accord, la joie et la routine ne vont pas ensemble, mais on peut prendre l'habitude de la joie. On peut prendre l'habitude d'aller à l'église avec joie et de se dire, comme les Israélites nous en font la leçon dans ce psaume, allons à l'église en admirant l'église, en disant qu'est-ce que je suis content d'aller à l'église, mon église je la trouve bien, même si il y a des gens... Point de suspension, je la trouve bien. En France, on aime beaucoup critiquer. Eh ben non, là, je ne vais pas avoir cet esprit critique. Je vais dire, on a vécu un beau culte ce matin. Ou alors, la semaine prochaine, on vivra un beau culte. Il y a tel et tel détail qui n'allait pas. On s'en fiche. On a vraiment vécu quelque chose où on était ensemble devant le Seigneur. Et c'était bien. Apprenons à dire ce genre de choses positive, parce que si je regarde ce psaume, c'est ce que les Israélites disaient de leur ville, Jérusalem, et c'est ce que nous pouvons dire, en adaptant, vous l'avez compris, de notre Église. Est-ce que Jérusalem était une ville parfaite? Est-ce que c'était le ciel sur la terre? Non. Il devait y avoir des bouts de murailles qui tombaient, il devait y avoir une porte qui coinçait, il devait y avoir des gens au casse-pieds à Jérusalem aussi d'ailleurs, des mauvais coucheurs, il devait y en avoir à Jérusalem. Et pourtant, on voit les psalmistes, enfin les pèlerins dire « Elle est belle Jérusalem !» Disons ça la prochaine fois qu'on vient à l'église. Crions dans la voiture ou « Elle est belle mon église, j'y vais avec joie !» Les gens vous prendront pour des fous, eh ben tant pis. Notre église est un havre de paix dans le quartier. On nous le dit souvent. À tel point que cet après-midi, vous l'avez lu dans le Quad Neuf, c'est la ville qui nous demande d'emprunter notre parc, elle nous demande de lui prêter notre parc dans le cadre de scènes de rue. Il y aura une animation des peut-être s'ils sont venus déjà installer des choses tout à l'heure. Notre Église est un havre de paix. Notre Église est engagée dans la cité, dans le dialogue, la bienfaisance, dans toutes sortes de choses. Elle est belle, notre Église. Bien sûr, elle rend aussi témoignage de sa foi par divers moyens. Le stand dans la rue des Maréchaux, par exemple, fidèle depuis de longues années. Elle est belle, notre Église. Pas d'orgueil là-dedans, pas de bomber le torse en jouant les gros bras, pas du tout. Les Juifs, quand ils allaient à Jérusalem, est-ce qu'on ressent quelque chose de l'ordre d'une fierté agressive, d'un orgueil dominateur? Pas du tout. Juste, elle est belle, notre ville. Elle est belle. Ça n'empêche pas la remise en question, ça n'empêche pas le réalisme. Mais ayant ce fond que le psaume 122 nous apprend, dont il nous montre l'exemple. Et puis, quand on vient à l'Église, ayant la joie de nous retrouver devant Dieu. Le psalmiste ici dit qu'on vient à Jérusalem, verset 4, pour célébrer le nom du Seigneur. Vous aviez de la joie tout à l'heure, quand Isabelle nous a conduits dans les champs, j'espère. J'entendais un petit peu, de là où on n'entend pas bien, mais je vous entendais chanter. On a de la joie quand on se retrouve avec les autres, devant Dieu. C'est un lieu qu'on a construit pour ça. Il y a 60... Ouais, alors là, j'improvise, c'était en 59 l'inauguration, peu importe. Qu'on a réhabilité et agrandi et embelli pour ça. C'est le premier but, qu'on se rencontre ici, qu'on se réunisse ici pour louer Dieu, pour nous réunir autour de lui. C'est à ça que sert cette Église, même si elle sert à d'autres choses. C'est à ça d'abord qu'elle sert. Et c'est pour ça qu'on a mis la main à la poche, qu'on a mis la main à la pâte, qu'on a aussi demandé à des entreprises de venir, qu'on a payé pour ça, pour que notre lieu soit un lieu où on loue Dieu. Et on le fait, et nous l'avons fait ce matin avec joie. Et nous l'avons fait ensemble. Importance de ce rappel permanent de la louange. La louange m'aide personnellement à me resituer dans le cadre de vie dans lequel je suis. Elle m'aide à me souvenir de ce qui est important. Elle m'aide à me resituer comme créature de Dieu. Et c'est important de venir le faire ensemble, de ne pas rester chez soi. On a eu un dévouement magnifique des personnes qui nous ont fait la vidéotransmission des cultes. Pendant le confinement, ça nous a un peu sauvé la vie, quelque part, si je puis dire. C'était super. Puis il y a des gens, on en parle beaucoup, il y a des gens qui ont pris l'habitude de rester chez eux et de suivre les choses sur Internet. Alors nous, on fait une pause estivale, mais sinon, ben voilà. Alors je vais vous proposer une comparaison. Nous sommes dans le pays de la choucroute. Certains Parisiens mal informés disent que la choucroute, c'est les Allemands. Erreur. La choucroute, c'est nous. Quand vous voulez une choucroute, est-ce que vous avez l'idée saugrenue d'en acheter une en boîte? On est d'accord. C'est complètement idiot. C'est tellement... D'ailleurs, c'est pas bon. Alors, il y a un côté pratique, peut-être, si on n'a pas le temps de cuisiner, je dis pas, bon. Mais c'est pas bon. Prenez une choucroute que vous avez faite à la maison ou vous mangez dans un restaurant, et là, on mange de la choucroute. On est fiers d'être Alsacien. Le culte en boîte, c'est un peu pareil. Le culte devant l'écran, c'est un peu pareil. Il manque l'odeur, il manque... les autres. Il manque ce qui fait que le culte est bon à manger. Merci à... Je ne vais pas dire qui m'a passé cette boîte, parce qu'elle va se taper la honte, évidemment. importance de venir, donc, et de faire la louange ensemble. Les Juifs qui chantaient ce psaume avaient marché pendant des heures, peut-être des jours, pour venir faire ce que nous pouvons venir faire en 10 minutes. Un quart d'heure, 5 minutes, suivant le lieu où on habite. Alors bien sûr, on ne le fait pas que 3 fois par an, on le fait plus longtemps. On le fait plus souvent, pardon. Mais bon, importance quand même de cette réunion. Merci aux gens qui ont mis le culte en boîte. Je le répète, ils ont fait un travail formidable. Mais si on peut venir et manger le culte frais, fraîchement mijoté, c'est quand même bien meilleur. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin des sorties de culte. Je me souviens, nous, quand Jocelyne et moi, on était devant notre écran parce qu'on n'était pas de service, on éteint l'écran, où l'écran s'arrête, pof, ça devient noir. Et après, ben voilà, tu es devant l'écran noir. Alors que quand nous, tout à l'heure, on va terminer le culte, on va être devant les gens. Et les gens, on va les saluer en respectant les gestes barrières, si vous voulez. Voilà, enfin, ce qu'il faudrait d'ailleurs. On va les saluer, on va leur demander comment ils vont. Ils vont nous demander comment on va. Il y aura de la relation, il y aura de la fraternité. D'autant plus qu'on va manger ensemble pour ceux qui peuvent. Cette notion de la communauté, de la fraternité, je pense aussi, éloigne les luttes de pouvoir dans l'Église. On sait très bien que, on entend régulièrement parler d'ailleurs aux informations encore récemment sur les questions d'abus de pouvoir, des relations coercitives et ce genre de choses. Si on cultive la joie d'être ensemble devant Dieu dans la fraternité, je pense que ça éloigne les luttes de pouvoir, l'orgueil. La joie d'être frère et sœur passe avant les luttes qu'on pourrait avoir parce que nous sommes toujours d'âmes pécheresses. Et puis, aujourd'hui, nous ne prenons pas la scène, puisqu'on la prend tous les 15 jours maintenant, mais la scène est irremplaçable comme geste communautaire. Verset 5. « Car là sont installés les trônes pour le jugement, les trônes pour la maison de David. » L'Église, dans une perspective éternelle. Nous sommes une communauté, havre de paix, disais-je, mais une communauté très modeste au regard de l'Église de Jésus-Christ dans le monde entier. Mais nous nous inscrivons dans cette perspective éternelle, dans ce grand peuple de Dieu. Nous avons un avenir dans le cadre de ce peuple. Qu'importe nos bâtiments, qu'importe nos fragilités, nos forces, nous avons un avenir parce que Dieu s'y est engagé. Il a un projet pour son peuple. Nous sommes un peuple qui avance. Ce n'est pas juste une communauté locale, c'est membre d'un réseau phénoménal, d'un corps dont le Christ lui-même est la tête, un peuple immense qui dépasse les frontières. Voyons plus haut, voyons plus loin que notre communauté. Quand les Juifs arrivaient à Jérusalem, ils envoyaient la dimension mondiale, ils envoyaient une dimension bien plus large, une fonction de capitale, bien plus large que simplement une ville où ils allaient se rendre. Et puis, les versets 6 à 9. La paix. Demandez la paix de votre Église. Qu'ils vivent tranquilles, ceux qui t'aiment. Que la paix soit dans tes locaux et la tranquillité dans tes salles. À cause de mes frères et de mes sœurs, je dirais que la paix soit en toi. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je recherche ton bonheur. C'est vrai qu'on ne vient pas à l'Église pour se disputer. On ne discute pas avec les gens à la sortie du culte pour leur faire sentir sa supériorité, sa meilleure connaissance, sans se préoccuper qu'on les blesse ou non en disant certaines choses. On vient à l'Église pour construire la paix, pour encourager, pour écouter, pour être encouragé aussi, pour construire une communauté qui fait envie. J'ai souvent en mémoire cette invective que Jésus a adressée aux pharisiens, qui faisait de la, on pourrait dire de l'évangélisation, sauf que c'est un autre nom qui doit être utilisé pour eux. Et Jésus leur disait, vous parcourez ciel et terre pour faire des disciples, et vous en faites après des enfants de la géhenne, c'est-à-dire des gens qui ne font que du mal, que des choses méchantes. Parce que les pharisiens avaient, en tout cas c'est ce que leur reproche Jésus, et c'est ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, pouvaient avoir un côté disputeur. Il n'était pas que ça, il faut leur rendre justice. Le mouvement des pharisiens, je le dis à chaque fois, est un très bon mouvement dans le judaïsme. Mais Jésus leur a fait des reproches. Et ces reproches, peut-être qu'il peut nous les faire à nous aussi. Quand nous faisons de l'évangélisation, et que quand les gens arrivent dans nos églises, ils se disent « Oh là là, quel panier de crabe !» On fait de la crabisation. Soyons une église qui fait envie. Serrons-nous la pince, si vous voulez, mais c'est la mission de chacun, de chacune. Tout le monde a le don de sourire. Vous venez presque tous, enfin, je ne vais pas vérifier, surtout ceux qui ont des masques, de me montrer que vous savez sourire. Tout le monde peut sourire aux autres. Tout le monde peut saluer les autres. Tout le monde peut faire un geste de fraternité. Ce n'est pas que le conseil pastoral qui peut être gentil, être exemplaire. Déjà, est-ce qu'il l'est ? Mais c'est tout le monde. C'est à l'Église tout entière de faire envie, c'est-à-dire d'être une communauté dont on pourra dire « Je vais avec joie à la maison du Seigneur ». Une communauté à laquelle on pourra inviter avec joie nos amis, nos collègues, nos familles, pour une occasion ou une autre, en disant « Viens, tu verras, il y a des gens sympas ». J'ai entendu plusieurs fois des gens qui me disaient « Ben moi, en ce moment, je n'ose pas inviter des gens dans l'église parce que c'est franchement lugubre, quoi. » Donc on tombe sous le coup de ce que Jésus disait aux pharisiens. On invite, on a des pliants machins super bien faits, puis en fait, quand les gens viennent, pom ! Limite, plus besoin de dépliants. Hein. Nos sourires valent tous les dépliants. Alors voilà ce que m'a fait penser le psaume 122. Ça fait à peu près 3000 ans qu'il a été écrit. Et je constate qu'il nous donne beaucoup de bonnes choses. Il vient d'un contexte assez différent du nôtre. Les pèlerinages à Jérusalem, des Israélites. Mais nous sommes en phase quand même avec tous ces ressentis qui sont exprimés. Vivons donc la joie de l'Église. Allons-y, allons aux réunions avec plaisir. Soyons fiers, rendons gloire à Dieu tout ensemble de ce que nous sommes en tant que communauté. Donnons-le à celles et ceux qui nous entourent. Aimons-nous les uns les autres. Construisons une Église paisible et active. Je vous invite à prier. Nous te remercions, Seigneur, pour notre communauté. Nous te remercions pour cette Église que tu as bénie depuis de longues dizaines d'années. Merci Seigneur pour le chemin parcouru. Merci de nous placer de nous donner ta joie lorsque nous allons au culte, aux réunions, lorsque nous allons faire un service, lorsque nous allons à une journée de travail, lorsque nous allons faire le ménage. Donne-nous ta joie. Donne-nous la joie de t'adorer ensemble, de te louer ensemble. Donne-nous la joie de te servir ensemble, de nous aimer les uns les autres. Pardonne-nous, Seigneur, parce que quelquefois il y a des coups de griffe entre nous. Nous ne voulons pas de cela, Seigneur, et nous nous humilions devant toi pour cela. Et nous te prions que tu nous pardonnes, parce que tu es le Dieu de la vie et le Dieu de grâce. Nous te remercions, Seigneur, de bénir notre vie de communauté. Nous te prions pour que nous construisions encore et toujours un lieu de paix active, ton Église, ici. Nous te louons. Merci pour la présence de chacun. Merci de bénir les absents. Nous te louons. Amen.